Chapitre 73. Avec la concentration d'une mémoriste, Nietzsche passa en revue toutes les connaissances qu'elle détenait. Les sorts qu'on lui avait appris, ceux des sorciers tués de sa main, il devait y avoir une autre solution. Désireuse d'être seule, elle sortit du complexe et alla contempler le vaste canyon. Sur les hautes falaises, telles les alvéoles d'une ruche, des myriades de petites habitations attendaient le retour des fermiers, des travailleurs et des chasseurs. Des millénaires durant, ces gens avaient vécu en reclus, veillant sur de précieuses archives. À l'abri du monde, ils l'étaient restés jusqu'à ce que la jeune Victoria, par hasard, neutralise le sort de camouflage. Le savoir entreposé dans les archives était à lui seul hautement dangereux. Mais il y avait pire. Une bande de sorciers amateurs qui ne comprenaient rien au sort qu'ils manipulaient. En fin d'après-midi, le canyon semblait paisible comme si la menace de la balafre n'existait pas. Nietzsche devait abattre Victoria, devenue un monstre à cause de son incompétence crasse. Elle savait comment faire, mais le prix, qu'il fût trop élevé ou non, ne pouvait pas être payé dans le temps imparti. Aucune réponse ne se profilait. Magicienne très douée, Nietzsche détenait l'arc requis, de bonnes flèches et une corde parfaite. Bref, elle était prête à affronter cette grotesque maîtresse de la vie. Mais où trouver le poison? Quoi qu'il en soit, elle refusait de baisser les bras. De sa vie, elle ne l'avait jamais fait. Dans les couloirs et les salles de surplomb du monde, la tension montait car les érudits et les mémoristes s'efforçaient de trouver une solution. Accablé par la mort de Mia, Nathan était prêt à tout pour abattre Victoria et son sort de fécondité délirant. Sans son don, il ne pouvait rien. Et s'il retrouvait sa magie sans pouvoir la contrôler, le remède risquait d'être pire que le mal. Il devait y avoir un autre moyen. Perdu dans ses pensées, Nietzsche regarda les fermiers, les bergers et les jardiniers vaquer à leurs occupations en attendant de connaître leur sort. Des gens paisibles, innocents et amicaux. La magicienne se sentit écrasée par le poids de ses responsabilités. Ces hommes et ces femmes comptaient sur elle pour les sauver parce qu'elle seule pouvait le faire. N'était l'aptitude qui lui manquait, celle d'aimer. Quelle ironie! Avec tout son savoir, la puissance qu'elle contrôlait et les compétences qu'elle avait acquises ou volées, sa seule faiblesse était un sentiment que n'importe quel gosse pouvait éprouver à volonté. Le cœur serré, elle balaya du regard le canyon où des générations de braves gens avaient vécu en paix. Cette paix, elle aurait aimé la préserver pour les habitants actuels de surplomb du monde, en particulier Chardon, qui avait déjà traversé tant d'épreuves. Enfant, Nietzsche aimait son père, même si sa mère avait fini par la détourner de lui. Sans comprendre son profond engagement envers son métier, ses employés et l'avenir, elle l'avait regardé travailler comme un bœuf dans sa fabrique. Consciente du respect que lui témoignaient les travailleurs, elle ne l'avait pourtant jamais admiré à cause de la mauvaise influence de sa mère. Cette femme l'avait en permanence rabaissée, lui faisant gober la philosophie indigne de l'ordre impérial. Persuadée d'être nourrie de mets délicats, Nietzsche avait fini par s'étrangler avec cet infâme rata. Après que Richard lui eut ouvert les yeux et montré comment briser ses chaînes, elle avait enfin compris son père et mesuré tout le mal que l'ordre impérial avait fait. À lui comme à elle, en dernière analyse. Mais son père était mort depuis longtemps. L'ordre impérial vaincu et Jagang éliminé par ses soins, elle ne pouvait plus rien changer au passé. Pour se consoler, il lui restait l'avenir. Aujourd'hui, travailler pour le futur, c'était abattre Victoria. À condition de pouvoir utiliser l'arme qui... Très nerveuse, la mémoriste Gloria sortit du complexe et fit signe à Nietzsche.
« Magicienne, on vous cherche depuis un moment.
Vous avez trouvé une solution ?» L'espoir, toujours, ancré jusqu'au bout dans le cœur humain.
« Hélas non, magicienne. C'est la petite orpheline qui voudrait vous voir. Elle dit que c'est très important. »«
Elle va bien ?» s'inquiéta Nietzsche.
« Elle vous attend dans votre chambre. C'est urgent à l'en croire, mais elle n'a rien voulu nous dire, sauf qu'il fallait vous prévenir au plus vite. »
Plantant-la, Gloria, Nietzsche entra dans le complexe et courut dans les couloirs. Elle s'inquiétait pour Chardon. Après avoir vu périr son village, combattu des hommes poussières, puis affronté une panthère et un dragon, si elle trouvait quelque chose d'urgent, ça devait l'être. Ou s'était-elle souvenue d'un détail précieux? Assis sur la paillasse, les genoux contre la poitrine, La petite attendait toute tremblante. Quand elle vit Nietzsche, ses grands yeux exprimèrent un mélange de soulagement et de peur. Avant que Nietzsche ait pu dire un mot, elle lança
« J'ai déjà avalé les graines. Tu aurais essayé de m'en empêcher, mais là, c'est trop tard. C'était mon seul moyen d'être sûr. Maintenant, tu vas devoir le faire. »
Un frisson glacé courant le long de son échine, Nietzsche avança.
« De quoi parles-tu ?»
Chardon montra les pétales et les feuilles qu'elle avait écrasées entre ses mains. Nietzsche reconnut la violette tueuse que Bannon lui avait offerte sans savoir ce qu'il faisait. En bonne magicienne, elle avait gardé une arme aussi rare et efficace. Sans hésiter, Chardon fourra les miettes végétales dans sa bouche.
« Arrête !»
cria Nietzsche en bondissant sur la gamine. Chardon déglutit. Quand la magicienne tenta de lui ouvrir la bouche, elle serra obstinément les dents.
« Trop tard !»
marmonna-t'elle. Elle avait déjà des convulsions. Nietzsche invoqua sa magie. Pouvait-elle forcer la fillette à cracher ? Y avait-il un moyen de neutraliser la substance ? Non. Contre cette toxine, il n'existait pas d'antidote. Dans ces camps de la mort, Jagang avait fait toutes sortes d'expériences. Rien à voir avec des ragots d'ivrogne dans une taverne. Les violettes tueuses étaient vraiment le pire poison du monde. Souvent, Nietzsche regrettait de ne pas avoir pu tuer Jagang plusieurs fois.
« On ne peut rien faire, »
murmura Chardon.
« C'est toi qui me l'as dit. »
La bouche vide, elle avait avalé toute la fleur. Désespéré, Nietzsche secoua la gamine par les épaules.
« Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Pourquoi as-tu fait ça ?
Pour que tu n'aies pas le choix. »
Chardon eut un spasme et toussa.
« Pour rendre sa beauté à la vallée, afin que les gens y soient heureux, mon rêve depuis toujours. »
Nietzsche enlaça sa disciple comme si elle redoutait qu'elle s'enfuit.
« C'est idiot, ma chérie. Ça ne servira à rien. »
La magicienne revit Jagang assis devant sa tante, ravie d'entendre les cris d'agonie des cobayes de ses expériences. Certains mettaient des heures à mourir, d'autres des jours. Les plus petites doses provoquaient des hémorragies, le sang sortant du nez, des oreilles et même des yeux. Pris de spasmes terribles, des malheureux finissaient par se briser l'échine tout seuls en beuglant jusqu'à s'en casser les cordes vocales. Avant la fin, leur peau explosait et leurs articulations se brisaient. Pour échapper à la douleur, des suppliciés s'écorchaient le visage. Chardon frémit dans les bras de Nietzsche. Les lèvres bleues, la peau grisâtre et les yeux injectés de sang, elle n'en avait plus pour longtemps.
« Petite, il n'y a pas d'antidote. Pourquoi as-tu fait ça ?»«
Pour toi. Ainsi tu auras ce qu'il te faut. J'ai choisi à ta place. »
La fillette trembla plus fort. Pour qu'elle se calme, Nietzsche la serra davantage contre elle.
« Mais tu peux abréger mes souffrances. Nietzsche, épargne-moi tout ça. Prends une flèche et transperce-moi le cœur, vite avant qu'il soit trop tard.
Non. »
Nietzsche invoqua sa magie thérapeutique. Pour le soutenir, elle déversa du pouvoir dans le corps de Chardon, mais le poison y faisait déjà des ravages.
« Je ne peux pas. Prends mon cœur et le sang qu'il contient. Tu en auras besoin contre Victoria. »
Nietzsche regarda les flèches qui reposaient sur la petite table de travail.
« Si tu m'aimes, »
dit Chardon,
« épargne-moi une fin atroce. Tue-moi, plante cette flèche dans mon cœur. Non. Nietzsche, tu auras le poison qu'il te faut, le seul qui puisse agir. »
Chardon referma les mains sur la robe noire de Nietzsche.
« Tue Victoria et sauve ma vallée !»
Le cœur brisé, la magicienne sentit que les spasmes s'aggravaient. Le début d'un processus qui pouvait durer des heures, voire des jours, forçant Chardon à s'arracher la peau, puis la chair.
« Je sais que tu m'aimes !»
souffla la fillette en levant une main pour caresser la joue de son ami.
« Non !»
souffla Nietzsche, sans pouvoir jurer que Chardon avait entendu. La gamine toussa et se pressa contre la poitrine de la magicienne. Sans lâcher la petite moribonde, Nietzsche fit léviter une flèche jusque dans sa main. Puis elle referma les doigts dessus, les yeux rivés sur la tête acérée. Chardon ne put plus se contenir et cria de douleur. Nietzsche la serra très fort. La souffrance, elle le savait, ne ferait qu'augmenter. La flèche dans la main droite, La magicienne de la gauche orienta le torse de Chardon pour une frappe précise et nette. Des larmes aux yeux, elle enfonça la flèche, délivrant la pauvre petite de son calvaire aussi doucement que possible. Quand elle retira le projectile, la tête et une partie de la hampe ramenèrent à l'air libre le sang d'une innocente, le poison requis pour abattre Victorien. Nietzsche y ajouta une toxine encore plus rare et plus dévastatrice, la première larme qu'elle versait depuis une éternité.